Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Les meufs, ça y est, mon livre est sorti. Pouf! Je suis aussi stressée que excitée. Ce livre, vraiment, je l'ai écrit d'une traite. C'était une évidence. J'y ai mis tout ce que j'aurais voulu lire quand j'étais enceinte. Les clés pour comprendre pourquoi on accouche de cette manière aujourd'hui. Pourquoi on peut ressentir un malaise quand on est enceinte face aux injonctions et ce qu'on perçoit au fond de nous. J'y ai mis les chiffres pour naviguer aussi face aux dangers brandis par le système médical et ceux pour comprendre de quoi on parle et des réelles probabilités auxquelles on a affaire. J'y ai mis les liens vers les études aussi pour pouvoir comprendre par soi-même et surtout des propositions pour modifier ces schémas de pensée. Réfléchir différemment, réfléchir ensemble aux questions de responsabilité, de santé physique, mais aussi mentale, émotionnelle, relationnelle, et plein d'autres choses. Et puis j'y ai mis plein de ressources aussi pour se préparer au mieux, mentalement. Il coûte 9,90€. Allez le commander chez votre libraire pour qu'il l'ait en stock, et dites-lui s'il vous a plu, pour l'inciter à le recommander à d'autres personnes ensuite. Vous aussi, vous avez un rôle à jouer dans le changement de point de vue sur les accouchements. C'est votre histoire, mais c'est aussi la nôtre, à nous toutes qui donnons naissance, ou pas d'ailleurs. Retrouvez le pouvoir d'enfanter, c'est le titre de ce livre, et il n'attend que vous. Bonne lecture et bon épisode.
Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas fort. On est vendredi 22 mars, je dis ça parce que je sais jamais quand est-ce que je vais publier les épisodes. Et mon père est décédé il y a une semaine. Je passe par absolument tous les états. La colère, la tristesse, l'incompréhension évidemment. Et là, depuis 3 jours, je fais un travail conscient, l'effort conscient de garder cette pensée à distance. Ça m'épuise, mais ça m'épuise moins que de ressentir la peine. Donc, voilà. Je crois que je vais avoir envie de vous en parler. Vous savez que le deuil, c'est un sujet qui m'a toujours beaucoup parlé. Parce que quand on parle de naissance, la question de la mort, elle est forcément présente. Et je trouve ça assez ironique. Je disais tout le temps que j'avais pas de légitimité à parler de la mort parce que j'avais pas vécu de deuil. Enfin voilà, mes grands-parents sont morts il y a 20 ans. J'étais ado, ils étaient vieux, bon, c'était l'ordre des choses. Et là, voilà. Du coup, je gagne un tout petit peu plus de légitimité à aborder le sujet du deuil. Même si le deuil d'un enfant, c'est encore autre chose. Bref, j'aurais envie de vous en parler. Là, c'est beaucoup trop tôt et j'avais pas vraiment envie de prendre ce micro. J'essaie de pas complètement décrocher du travail, donc de ce podcast, des réseaux sociaux. Et j'ai écouté l'épisode de Bliss de la semaine avec Elissa, que vous connaissez peut-être. Et j'aime bien cette fille, donc j'ai voulu écouter son histoire cette semaine. Et ça m'a donné envie de réagir. Ça n'a pas généré en moi cette colère ou cette indignation presque pas joyeuse mais motrice que je ressens habituellement. Ça a juste généré une indignation, mais je sais pas, enfin, c'est pas léthargique, mais je suis dans un état de... Je sais pas vraiment, j'ai un peu de mal à agir. Je suis très dans le mécanique et je crois que j'essaye de garder les émotions à distance. Le fait est que j'ai écouté quand même cet épisode et j'ai pris des notes et je me suis dit que ce serait pas mal que je vous en parle aujourd'hui. Ne serait-ce que aussi pour prendre ce micro parce que j'ai pas envie de perdre la mécanique de prendre le micro, même si c'est pas vraiment une mécanique. J'ai pas envie que ce micro me fasse peur. Je sais que je vais en avoir besoin, je sais que je vais avoir envie de vous parler du deuil. Et il est bien trop tôt, il est bien trop tôt. J'ai fait un tout petit post sur Instagram en début de semaine qui m'a fait du bien mais qui a suffi. Et puis écrire, c'est pas comme parler, enfin voilà. Mais voilà, je me suis dit que prendre ce micro et vous parler de cet épisode de Bliss, ça pouvait être une bonne manière de vous parler, là, de vous faire une petite intro sur comment je me sens. De garder le lien avec vous, peut-être. Parce qu'en vérité, le lien avec vous, là, il est un peu dur. Genre, sur Instagram et TikTok, je continue à recevoir, comme tout le temps, des notifications, des questions, des messages privés. Ça me nourrit tout le temps. Et là, c'est un peu dur. J'ai pas envie de trop réfléchir. Donc, je continue de répondre. Mais je mets beaucoup de distance. Je réponds avec pas mal de délais parce que j'en ai besoin, parce que ça me fait du bien de mettre le tampon, de pas me sentir obligée de répondre tout de suite. Je réponds forcément différemment de ce que j'aurais fait dans d'autres circonstances. Mais j'ai pas envie de rompre le lien avec vous, donc je me dis que là, le podcast, je vous parle et vous me répondez pas, et c'est pas mal. Donc cet épisode d'Elissa. Elissa, donc, elle a 3 enfants. Elle a eu une première grossesse où elle a eu un petit garçon. Deuxième grossesse, des jumeaux, 2 petits garçons de nouveau. Et vraiment, ce qui m'a heurté, donc je ressens pas d'émotion là, mais parce que mon cerveau est très fort et qui veut me protéger, donc là il a dit viens on arrête les émotions vite fait, mais j'ai quand même pas aimé ce que j'ai entendu dans Bliss, et ce qui le gros point, le gros fil conducteur de cet épisode qui était tellement problématique, c'est la normalisation des horreurs qu'a vécu Elissa. La première horreur, c'est cette première césarienne. En gros, Elissa a pris du poids pendant sa grossesse. Bon. Et elle avait des... Elle, quand elle a fait le test du glucose, elle a eu un taux qui était un peu plus que limite, au-dessus des normes, et on lui a dit diabète gestationnel. Et quand on met une étiquette comme ça, on sait ce que ça veut dire, hein. Médicalisation, surmédicalisation. Mentalement, voilà, on te met dans un truc pas hyper positif. On lui a prédit un gros bébé, son bébé était haut dans son ventre, et sur la fin de sa grossesse, son acupunctrice lui a dit « Ah, ça, ça sent la césarienne. » En fait, bien évidemment qu'il n'y a aucune malveillance dans tous ces trucs-là, mais simplement, on ne se rend pas compte de l'impact émotionnel que ça peut avoir. Dans quelle disposition mentale on se met quand on entend « Vous avez un gros bébé, ça sent la césarienne. Oh là là, qu'est-ce qu'il est haut !» Enfin, vraiment, les gens ne se rendent pas compte. Donc... on lui prédit un gros bébé, diabète gestationnel, et placé haut dans le ventre. À la fin de sa grossesse, elle demande un décollement des membranes, et puis elle fait une grosse marche, et parce qu'elle voulait, voilà, elle voulait que le bébé arrive. Et effectivement, décollement des membranes plus la grosse marche, ça fait que le travail se met en route, et donc elle dit à Clémentine... elle passe un moment voilà, avec ses contractions à la maison. Elle ne sait pas trop comment elle gère, je crois. Et elle arrive à la maternité et on lui dit qu'elle est à peine dilatée à 1. Donc un peu douche froide, elle reste à la maternité. On lui fait un monitoring. Et en gros, voilà, elle n'explique pas trop quand est-ce qu'on lui pose la péridurale ou quoi que ce soit. On comprend que ça se fait assez machinalement, rapidement... Surtout que de toute façon, puisqu'elle était étiquetée grossesse à risque, le système médical préconise fortement la péridurale parce qu'eux considèrent que ça réduit les risques. Alors qu'en vérité, ça ne réduit pas grand-chose comme risque, mais voilà. Enfin, ça réduit les risques de devoir faire une anesthésie générale, ça d'accord. Mais ça réduit absolument aucun autre risque. Et encore une fois, j'en parle souvent, mais les risques... tout est risqué. Accoucher avec péridurale, ça comprend des risques. Accoucher sans péridurale, bon, ça comporte des risques. Mais en fait, la naissance comporte des risques. Donc, enfin, voilà. Et comme d'habitude, ce que je trouve excessivement problématique, c'est que c'est le personnel médical, c'est l'hôpital qui choisit les risques qu'ils veulent prendre pour cette personne. Ce n'est pas la personne qui est en mesure de prendre les risques qu'elle veut parce que on lui dit, on lui impose une vision de ce qui lui arrive. Et donc, effectivement, péridurale, elle arrive à dilatation à 10, on lui dit de pousser, mais le bébé est trop haut. Et les mots d'Elissa, c'est « il ne s'est jamais engagé ». Et donc, la césarienne arrive dans ce récit comme la suite logique et en gros le coup de pas de bol. En fait, c'est comme ça que c'est raconté, c'est comme ça que c'est certainement vécu par Elissa. Et je redis, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, quand je fais des décryptages comme ça, des relectures, je n'incrimine jamais la personne qui a accouché et vraiment aucune responsabilité n'est à mettre sur ses épaules à elle. Quand on est dans un système aussi puissant que celui-ci, où on est matrixé depuis toujours, depuis notre naissance, sur l'accouchement, c'est dangereux, c'est horrible, c'est hyper douloureux, la grossesse, c'est dangereux, et dès que t'es un tout petit truc qui sort des normes, alors là, t'es vraiment à risque que ton bébé il meure, et toi aussi, enfin... Donc vraiment, là voilà, Elissa, elle a vécu les choses comme ça, parce que elle a été formatée, comme nous toutes, à penser comme ça, et emprunter un chemin différent, c'est hyper difficile. Et voilà, donc vraiment, je remets ces points-là qui sont importants, je pense. Et si Elissa devait un jour écouter cet épisode, rien n'est de la faute d'Elissa. Et Elissa, quand elle raconte ce récit, vraiment comme quelque chose qui lui est tombé comme ça, et bon, bah voilà, il s'est jamais engagé. et qu'elle croit ça alors que ce n'est pas une fatalité, le fait qu'il ne se soit pas engagé, c'est une conséquence de la médicalisation de cet accouchement, de la péridurale, de l'immobilité, de la position allongée, voilà, du fait que les soignants ne se disent pour beaucoup encore ne se disent pas « ce serait pas mal de faire bouger la patiente, la personne en train d'accoucher, pour l'aider à ce que le bébé s'engage ». Pourtant, il y a des soignants qui le font, il y en a dans certaines maternités qui savent très bien, qui ont parfaitement conscience que le mouvement, c'est la clé pour aider un bébé à s'engager, ou aider un bébé à naître. Mais il y a encore trop de soignants pour qui... Bah non, quoi, hein, voilà, il s'est pas engagé. Bon, bah, super. Et puis surtout, enfin voilà, il y avait cette disposition mentale. Enfin voilà, l'acupunctrice qui lui a dit, oh là là, ça sent la césarienne, enfin bref. Et puis le bébé, il est trop gros de toute façon, donc dans la tête, ça veut forcément dire, il va avoir du mal à s'engager, il va avoir du mal à passer. Tous les signaux étaient assez négatifs et assez rouges. Donc voilà, Elissa présente ce truc-là, il ne s'est jamais engagé comme une fatalité, Clémentine le reçoit de cette manière aussi, et ça, je trouve que c'est problématique, dans le sens où ce n'est pas une fatalité. La péridurale a fait que ce bébé ne s'est pas engagé. Et l'énorme problème, c'est que ce bébé qui naît, donc... avec le passif, diabète gestationnel, gros bébé, le bébé qui ne s'engage pas, etc. Ce bébé, il naît à 3,6 kg. 3,6 kg. 3,6 kg, ce n'est pas un gros bébé. On peut parler de gros bébé à partir de peut-être 4 kg. Ok. Et encore une fois, si la mère, elle mesure 1,80 m, enfin bon, bref. 3,6 kg, ce n'est pas un gros bébé, ce n'est pas vrai. Et en plus, Elissa dit, il était surtout grand. Je ne sais plus ce qu'elle dit, 53-54 cm. Effectivement, c'est un tout petit peu dans le haut des courbes. Ce n'était pas un gros bébé. Et donc là, effectivement, Elissa, elle n'en parle pas. Et je ne sais pas si elle ne fait pas le lien, ou si elle le fait, mais elle se dit, c'est pas grave. Enfin, voilà, mais en fait, il faut qu'on en parle de ça. Ce diabète gestationnel qui lui a fait peser sur sa grossesse un poids énorme, donc elle parle beaucoup voilà, de son corps qui s'est déformé, elle a pris beaucoup de poids, elle le vivait bien enceinte, mais après ça a été plus difficile. Mais cette pression de la surmédicalisation, en fait, et puis donc je crois que son père était médecin, ou ses deux parents sont médecins. Enfin. Ce biais de pathologisation qui l'a cadré à se dire, j'envisage le pire pour mon accouchement parce que je fais du diabète gestationnel, parce que je vais faire un gros bébé, parce que forcément, et puis en plus il est haut et machin. En fait, cette société, ce système, l'a mise sur le chemin de la césarienne et sur le chemin du traumatisme, alors que son bébé est né à 3,6 kg. Est-ce qu'on peut se rendre compte de la gravité de ça? Et je ne sais plus si elle parle d'une échographie de T3 qui aurait confirmé gros bébé. J'imagine que oui. Oui, si, il me semble que oui. Et ça, c'est pareil. Clémentine, elle... Moi, je pense qu'il faut réagir. C'est son rôle dans cet écosystème de la naissance dans lequel elle a un rôle tellement important. Il faut dénoncer ce qui va pas. Et Clémentine, c'est pas la première fois qu'elle entend des erreurs de diagnostic de poids de bébé. Et c'est trop grave. Et en fait, tant qu'on continuera à prendre les expériences individuellement et à se dire « Ah bah oui, mais ça c'est... Bon, bah voilà, j'ai pas eu de chance. » Enfin, c'est pas ça. C'est un système. Il faut prendre le recul. C'est comme, enfin, c'est cette formule du féminisme qui a été repris pendant, enfin, utilisée pendant très longtemps, qui est reprise, enfin, pas mal utilisée par Lorraine Bastide, que j'utilise aussi beaucoup parce qu'elle me parle tellement. L'intime est politique. Ce qui t'arrive à toi dans ton couple, ce qui t'arrive à toi dans ton accouchement, ce qui t'arrive à toi au travail, ce n'est pas un fait isolé. Ça fait partie de tout un système. Et bien sûr que c'est difficile de comprendre ça quand on est voilà, dans son quotidien, face à sa douleur, face à ses difficultés. Et c'est hyper difficile de prendre le recul et de se dire, attends, en fait, le problème, c'est pas moi, le problème, il est plus gros que moi. Clémentine, moi, je trouve que ça devrait être son rôle, en fait. L'intime est politique. Les problèmes de traumatisme à l'accouchement, c'est systémique. Ce n'est pas, comme tout ce récit d'Elissa, une faute à pas de chance, un pas de bol. Et c'est pas du tout... Elissa n'emploie pas du tout ces termes. Elle dit pas « j'ai pas eu de chance ». Mais vraiment, la manière dont c'est dit, c'est « bon, bah voilà, il s'est jamais engagé ». Et après, pour les jumeaux, après, il va y avoir des choses un peu comme ça aussi. Ce n'est pas... Il n'y a pas de fatalité. Ce n'est pas du hasard ce qui arrive à toutes ces femmes qui sont traumatisées par leur accouchement et qui vivent des césariennes. Ce n'est pas intrinsèque à la naissance. Ce n'est pas vrai. Donc ensuite, Elissa raconte sa deuxième grossesse. Donc le choc d'apprendre qu'il y aura deux bébés, qu'elle attend des jumeaux. Elle voulait absolument vivre une voix basse. Et quand elle en parle au gynéco, on lui répond « ça va être très difficile ». Et Elissa, juste avant ça, elle dit « de toute façon, une voix basse de jumeaux après une césarienne, c'est impossible ». Elissa, elle dit ça. Et Clémentine, elle répond « ah ouais, non, c'est trop risqué ». Et en fait, c'est toujours pareil, c'est cette méconnaissance, c'est ce biais du système obstétrical, de cette société qui est tellement angoissée de la naissance, de l'accouchement, de la mort. Sauf que accoucher de jumeaux par voix basse après une césarienne, ça existe. Il y a Clotilde, à travers la maternité sur les réseaux sociaux, qui a vécu ça. Et Clotilde, elle serait pas toute seule s'il y avait plus de femmes qui réussissaient à prendre confiance en elle. Et cette peur qui est véhiculée et qui est nourrie tout le temps, avec tous ces récits où on banalise, où on normalise la surmédicalisation et où on normalise les traumatismes, ce n'est pas normal d'être traumatisé par son accouchement. Et je pense qu'il faudrait peut-être différencier les traumatismes potentiels. Évidemment que si demain tu accouches chez toi, et que ton bébé meurt, évidemment que tu vas être traumatisé. Mais si tu as fait des choix en conscience, si c'est une donnée que tu avais en tête, que tu avais réfléchi, évidemment qu'on réfléchit jamais à se dire « je suis enceinte et peut-être que mon bébé va mourir quand il va naître », moi je ne pouvais pas réfléchir à ça quand j'étais enceinte, mais est-ce que cet éventuel traumatisme, on peut le mettre sur le même niveau que le traumatisme de la césarienne, parce qu'on veut toujours dire oui, ce qu'il faut, c'est être en vie à la fin de l'accouchement. Mais je sais pas, en fait, si c'est le seul truc. Et surtout, on vend toutes ces césariennes comme inévitables, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. La césarienne, elle est évitable. Le traumatisme, il est évitable. La mort, elle est pas tout le temps évitable. Voilà, mon père... Il est mort il y a une semaine. Je sais pas si on aurait pu l'éviter, j'en sais rien. Et demain, tu peux accoucher à l'hôpital, ton bébé il peut mourir. Clémentine, elle en a des récits comme ça dans son podcast. Tu peux accoucher à l'hôpital, ton bébé il est mort. Ben voilà. Et ben, tu peux accoucher chez toi, ton bébé il est mort. Enfin, voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Il n'y avait pas de joie dans cet épisode. Il y avait peut-être une sorte de dépit. C'est pas du dépit. J'ai un rapport aux émotions qui est un peu altéré, là, donc... Vous allez entendre une voix... Je pense que vous m'entendez pas souvent avec ce genre de voix. J'ai enregistré comme j'ai pensé. J'ai enregistré comme ça s'est fait. J'ai pas réfléchi. Je me suis pas dit, je vais prendre une voix particulièrement comme ci ou comme ça. Mais j'avais envie de parler de ça, et je l'ai fait, et je suis contente de l'avoir fait. Et maintenant, je vais peut-être essayer d'aller me coucher.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ne soyez pas plombé. Là, moi, c'est juste que je suis tout au début de mon deuil et donc c'est un peu compliqué. Je sais pas très bien comment je navigue ça. Donc là, voilà, c'est un peu dur, mais je pense que c'est OK. On n'est pas tout le temps au top et c'est OK. Et parfois, les gens, ils meurent. Et je crois que c'est OK. Je sais pas. Je crois que c'est forcément OK. Les gens, ils meurent forcément, en fait. Ça sert à rien de vouloir l'éviter, non? Ou faire comme si ça n'existait pas. Et quand on dit que c'est OK, bien sûr qu'il y a de la douleur. Bien sûr que c'est difficile d'être confronté à la mort. Mais la douleur et les épreuves, bah c'est aussi ça, la vie. La vie, c'est pas que simple, quoi. Je voulais dire, je veux pas que vous soyez plombés après cet épisode. Je trouve qu'il était cool. J'ai l'impression d'avoir réussi à dire les choses un peu clairement et je trouve ça pas mal. Bref, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Dites à vos proches que vous les aimez. Ne restez pas fâchés. Prenez les bonnes décisions. Et on se reparle très vite. Salut.